9h-10h, côté expert, Arnaud Decroix.
Et au cours de la prochaine heure, jusqu'à 10h, on vous parle justement avec toute cette eau qui est tombée. Quelles sont les conséquences pour la végétation et les plantes, nos jardins? On en parle avec notre expert, c'est Richard Morandière. Bonjour Richard.
Bonjour.
On va vous parler justement de tout ça, de tout ce qui pourrait peut-être... comment les plantes s'adaptent. Et puis les plantes également du mois de mai, c'est la floraison pour un certain nombre de plantes. D'ailleurs vous, Catherine...
J'ai une question moi pour Richard, si je puis me permettre Arnaud.
Allez-y, je vous en prie.
J'ai vu apparaître dans mes lavandes ces derniers jours, une espèce de petite mousse blanche. Alors, je suis allée regarder évidemment sur internet. J'ai cru comprendre que c'était le crachat du coucou, c'est ça, Richard?
C'est bien ça, Catherine. Bonjour.
Bonjour.
Il s'agit en fait d'une petite larve d'un insecte qui s'appelle la cicadelle, plus précisément le cercope des prés, et qui est une petite larve qui va s'installer sur essentiellement les plantes aromatiques dans le jardin. On les trouve beaucoup sur les pieds de lavande, les pieds de romarin, les pieds de sauge. C'est une larve qui va à peu près avoir un cycle de 10 à 15 jours, donc elle va disparaître. Il n'y a rien de dramatique pour les plantes, Catherine, donc vous laissez faire la nature.
Voilà, avec me demandais comment m'en débarrasser, mais finalement ça va partir tout seul.
Ouais, tout à fait.
Moi, ça me va bien.
Elle va se transformer en adulte assez rapidement, et donc ça n'a aucune conséquence pour vos plantes. Et puis la pluie actuellement lessive aussi pas mal, donc on peut s'en débarrasser mécaniquement avec un petit jet d'eau, mais allez, on va les laisser évoluer, ces petites cicadelles. C'est un petit insecte suceur, mais qui n'a pas beaucoup d'incidence sur la végétation.
Merci docteur. Docteur des plantes, bien sûr.
Et puis je vous dis à bientôt Catherine.
À bientôt Richard.
Bon, si comme vous avez une question comme Catherine, c'est le moment de nous la poser. Vous nous appelez au 05 46 50 67 68. Catherine a brisé la glace en cette matinée. On vous parle à présent de jardinage, de jardin, de plantes. Quelles sont les conséquences de toute cette pluie, justement, pour vos jardins, vos terrasses, vos balcons? On en parle avec notre invité, qui est jardinier, Richard Morandière. Bonjour.
Bonjour, Arnaud.
Le thème aussi de la matinée, aujourd'hui, ça va être les parfums des plantes, des fleurs. Parce que c'est vrai que le mois de mai, ça exalte aussi un certain nombre de parfums. On pense évidemment au muguet, peut-être, le 1er mai.
Là, les floraisons s'amorcent de façon importante dans les jardins, avec toute une palette de végétaux que l'on trouve habituellement. On va en parler sur les thématiques que l'on a choisi d'aborder ce matin, c'est-à-dire les arbustes, les vivaces et les plantes grimpantes et les agrumes. Il faut savoir que la senteur des fleurs est principalement due à la présence de composés organiques volatiles, ce qu'on appelle les COV, dans leurs pétales. Ces COV sont des molécules aromatiques qui sont libérées dans l'air et captées par notre nez, ce qui crée cette sensation olfactive. Chaque espèce de plante produit une gamme spécifique de COV qui contribue à son parfum distinct. On peut retrouver des parfums que l'on connaît bien, comme la lavande, par exemple, comme le jasmin, qui sont des parfums que l'on retrouve dans différentes gammes de végétaux qui nous font penser à ces parfums-là. Donc les conditions environnementales sont bien évidemment déterminantes. Les pluies de ces derniers jours, c'est pas forcément favorable justement à l'émission de ces parfums. Il faut quand même un peu de temps sec et surtout de chaleur pour exalter les floraisons de toutes ces plantes. Et là, en ce moment, on a un peu du mal à voir le bout du tunnel en ce qui concerne la météo. Ça devrait s'arranger et forcément ces floraisons qui sont amorcées pour le mois de mai et le mois de juin vont vraiment exploser et ça va être un régal pour le parfum.
Puisqu'on parle de plantes olfactives, Richard, il y aura également un lot de 3 plantes à gagner au cours de cette émission.
On ne perd pas nos bonnes habitudes lors de notre rendez-vous du dimanche matin avec aujourd'hui donc 3 plantes qui sont excessivement parfumées, qui sont la lavande papillon, l'oranger du Mexique et le Pittosporum tubira. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation de ces plantes parfumées, d'une valeur environ de 80 euros à gagner donc par rapport à la question d'un auditeur ou à la remarque d'un auditeur concernant justement les plantes parfumées au jardin.
Voilà, donc la question la plus pertinente repartira après la délibération donc avec ce lot de 3 plantes. On a une première question pour vous Richard, une question d'Anita. Bonjour Anita.
Bonjour.
Nous appelez de La Rochelle, quelle est votre question ce matin?
Oui. J'ai un pommier qui depuis l'automne dernier, il y a un trou qui s'est fait, un tout petit trou dans le tronc.
Oui.
Et ça se fait, comme je ne sais pas si c'est la sève ou quoi, c'est jaune marron.
Oui.
Il y a une bête, ça fait comme une galerie dedans et j'ai peur que ça détruise tout mon pommier.
Alors, effectivement, il va falloir être un peu attentif parce que c'est une petite bête qui est une larve, en fait, qui est une zeuzère, qui est un papillon qui a cette fâcheuse tendance à venir pondre sur l'écorce de l'arbre et la petite chenille va commencer à rentrer rentrer dans l'écorce et creuser une galerie jusqu'à la cime. Donc, suivant l'âge de votre pommier, il va falloir éventuellement mécaniquement tuer cette petite chenille. Si vous avez observé simplement un tout petit trou, bah, c'est qu'elle n'est pas encore montée très très haut, donc c'est pas très difficile d'aller mécaniquement d'aller la détruire. Avec une petite tige de fer, généralement vous remontez en direction de la cime de votre pommier et vous allez tuer cette zézère.
Merci beaucoup pour votre question, Anita.
Il a 4-5 ans, alors.
Il a 4-5 ans déjà, donc il va falloir aller le chercher de façon un peu plus profonde. Mais il n'y a pas de traitement particulier pour se débarrasser de ce petit parasite. Normalement, son cycle de vie, c'est pas plus de 3-4 ans. Donc, elle devrait se transformer en papillon. Par contre, c'est certain que cette galerie qui a été creusée peut être l'ouverture de problèmes cryptogamiques, de champignons qui peuvent s'installer. Donc, surveillez quand même l'écoulement de cette sève quand la montée de sève s'approche à partir de maintenant.
D'accord.
Merci.
Et puis je voulais vous demander pour des pieds de tomates.
Anita, on a beaucoup de questions après. Hein.
Rapidement, Anita.
Une dernière question, allez-y.
Est-ce que j'ai des pieds de tomates qui ne sont pas encore tout formés, ils ne sont pas très hauts, et ils font déjà des fleurs. Est-ce que je dois les enlever ?
Alors, vous pouvez bourgeonner quelques fleurs, pas toutes, mais vous allez quand même en conserver quelques-unes. Mais c'est vrai que là, la végétation s'est déjà bien démarré avec les premières chaleurs du mois d'avril que l'on a connues. Donc, conservez voilà, les fleurs qui vous paraissent les plus exposées au soleil, de façon à avoir les premières récoltes assez précocement dans la saison.
Et merci beaucoup pour vos questions, Anita. On a maintenant Elisabeth avec nous. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de la Tranche-sur-Mer. Quelle est votre question ce matin ?
Alors, moi, j'ai beaucoup de rosiers. Ça fleurit toujours très bien. Et cette année, j'ai beaucoup de branches qui n'ont que des feuilles. Et au bout, il n'y a pas le bouton de rose comme d'habitude. Alors, que se passe-t-il ? Ont-ils été mangés ? Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être mangés parce que
non.
Ça fait une petite tête de feuilles, quoi.
Elisabeth, généralement, sur les rosiers, alors, je sais pas si ce sont des rosiers buissons, ce sont des rosiers grimpants que vous avez dans le jardin.
Buissons.
Rosiers buissons. Donc, les seuls boutons qui peuvent être mangés par les rosiers buissons, ce sont les cétoines, ce sont les larves de cétoines qui mangent ces boutons de rose. Ils sont pas encore complètement actifs dans le jardin. C'est encore un peu tôt dans la saison. Généralement, on les voit plutôt apparaître sur le mois de juin. Bon, mais on a quand même un printemps qui a du mal à s'installer. On a des floraisons qui sont assez retardées. La végétation est bien démarrée, mais on a quand même ces conséquences de ce temps qui est plutôt médiocre en ce qui concerne la montée des fleurs des rosiers. Généralement, les rosiers, c'est plutôt une floraison de fin mai, début juin pour la majorité. Donc là, peut-être faire un apport d'engrais potassique si vous ne l'avez pas fait encore démarrage de végétation.
En février, j'ai fait un apport d'engrais
pour rosiers,
de l'or brun. Une grosse pelletée à chaque pied. J'ai
gratté
et j'ai réarrosé après. Et là, vous dites de l'engrais potassique.
Oui, un engrais à base de potasse.
De la cendre, non, c'est pas assez.
La cendre, c'est bien, sauf si vous avez une terre qui est un petit peu calcaire. Alors, je vois que vous êtes du côté de la Tranche-sur-Mer, je pense que c'est pas très très calcaire vers chez vous. Donc oui, vous pouvez aussi apporter de la cendre. Oui, c'est plutôt argileux. Donc apporter de la cendre éventuellement, mais l'engrais potassique va vraiment favoriser la montée de floraison pour ces rosiers qui sont en terre chez vous.
Bon, merci.
Merci. Voilà, Elisabeth, pour votre question. On continue à parler jardinage avec notre invité Richard, qui est jardinier, qui répond à toutes vos questions jusqu'à 10h. Un seul numéro de téléphone, le 05 46 50 67 68. C'est le numéro de téléphone de France Bleu La Rochelle. Vous nous parlez ce matin en particulier, Richard, de ces plantes qui dégagent des parfums. On pense peut-être en premier lieu au muguet qu'on sauve traditionnellement, évidemment, le 1er mai.
C'était la tradition il y a à peu près quelques jours, effectivement, d'offrir un marin de muguet. Le muguet, c'est la plante porte-bonheur qui orne les jardins pratiquement depuis des générations et des générations. C'est une plante vivace qui se cultive de préférence dans une situation mi-ombragée, dans une bonne terre de jardin, restant plutôt un peu fraîche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de sécheresse importante, et qui a tendance à faner assez rapidement. Et il faut laisser entièrement le pied de muguet dessécher, ne surtout pas le couper quand on le trouve un peu disgracieux. C'est pour ça qu'on le met plutôt dans un arrière de massif, pas forcément devant une plate-bande. de façon à ce que justement on n'ait pas cet effet un peu fané, un peu défleuri que l'on peut avoir avec le muguet. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant. On le trouve sous forme de griffes généralement pour assurer la floraison de l'année prochaine.
Mais on a également de très beaux iris en ce moment dans les jardins.
Les iris c'est magnifique, surtout les iris hybrides de Germanie, les iris germanica, qui sont des plantes en fait rhizomateuses, donc avec un bulbe qui s'enterre. Les iris sont des parfums parfois très délicats, c'est un parfum très particulier. C'est une plante que l'on peut considérer comme une plante vivace qui apprécie les sols plutôt drainants. On les trouve généralement au pied de vieux murs, dans des terrains un peu caillouteux. Ça déteste les sols argileux, ça supporte parfaitement la sécheresse une fois que c'est installé, donc c'est aussi une plante vivace assez facile aujourd'hui d'utilisation.
Et puis un mot rapide peut-être sur les violettes pour terminer.
Les violettes, la plus connue, c'est la violette des quatre saisons, la violette odorata, qui a cette odeur si particulière, si entêtante que l'on peut retrouver, que l'on trouvait autrefois beaucoup dans les jardins de nos grands-mères, qui revient un petit peu à la mode parce que les cuisiniers s'en servent beaucoup, aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine, parce que ça a un petit goût poivré au niveau de la fleur. Voilà, donc en ce qui concerne les violettes, c'est trois petites plantes vivaces qui sont assez faciles et que l'on retrouve pratiquement dans tous les jardins, que l'on peut adopter facilement et avoir ses parfums dès le début du printemps.
Voilà les bons conseils de Richard, notre jardinier. Vous avez une question à lui poser, c'est le moment de nous appeler au 05 46 50 67 68 à France Bleu La Rochelle. On a justement avec nous Colette. Bonjour Colette.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Saint-Denis-d'Oléron, on vous écoute.
Je voudrais savoir, j'ai un cica, oui. Et les feuilles ne sont vraiment pas belles. Alors je sais qu'il y a quelques années, je l'avais taillé entièrement, mais oui. Là je ne sais pas si je dois le faire tout de suite ou si c'est la saison.
Alors oui, ça va être la saison de tailler un Cycas revoluta, qui est en fait une plante qui fait partie de la d'une famille un peu particulière, qui n'est ni un panier, ni une fougère, ni une plante vivace. Voilà, c'est vraiment dans le royaume végétal, c'est vraiment une plante un peu à part. Donc, est-ce que ce sont les feuilles qui ont déjà plusieurs années, ou est-ce que c'est la pousse de l'année dernière, Colette?
Plusieurs années. Hein.
C'est ça, donc elle commence à être un petit peu abîmée par plusieurs critères que sont les coups de soleil que l'on a quand il fait très chaud, la grêle, si jamais il y a eu de la grêle sur les feuilles, on a des petites pointes jaunes qui apparaissent régulièrement.
Petites pointes jaunes, c'est enfin, ça. Disons qu'elles sont pas belles.
Ça peut être le gel, ça peut être également un petit coup de gelée qui a pu un petit peu abîmer les feuilles, ça peut être aussi un parasite comme une araignée rouge qui s'est mise au revers des feuilles. Tout ça, ça engendre effectivement un jaunissement, quelque chose qui n'est pas forcément très frais sur cette plante qui est pourtant magnifique avec ses grandes feuilles qui ressemblent à celles d'un panier. Donc, je vous conseille là, puisqu'on a eu quand même beaucoup de pluie et que le temps devrait passer un petit peu au chaud, de couper l'ensemble de ces feuilles, et normalement on va avoir une pousse dans le courant du mois de juin, début du mois de juillet sur le cycas, avec un flush, ce qu'on appelle un flush, c'est la sortie des nouvelles pousses qui se produit au niveau du cœur de cette plante-là, avec peut-être une vingtaine, trentaine de nouvelles feuilles toutes belles, toutes vertes, qui vont apparaître. Voilà, donc ça, c'est vraiment le moment de le faire. Un petit peu d'engrais pour les aider à refaire cette pousse, et vous allez avoir de nouveau un cycas magnifique, Colette.
Merci beaucoup pour votre appel, Colette.
Il est en pot, donc ça...
Aucune incidence, vous pouvez le faire. Donc justement, en pot, vous allez mettre un petit peu plus d'engrais, notamment un engrais liquide pour plantes vertes, ça lui fera énormément de bien. Et vous, là, vous pouvez les couper, là, après les seins de glace, vous pouvez couper l'ensemble de ces feuilles.
9h-10h, côté expert, Arnaud Decroix.
9h32, encore une demi-heure pour nous appeler, pour poser toutes les questions à Richard, notre jardinier. On parle notamment ce matin des parfums ensemble. On a parlé tout à l'heure du muguet, évidemment, plante de saison, des iris, des violettes. On pourrait peut-être avec vous, Richard, justement, revenir cette fois-ci sur les arbustes. On pense particulièrement au lilas en cette saison.
Alors le lilas, oui, qui entame sa floraison, mais là je voulais vous parler d'arbustes qui sont vraiment avec un parfum absolument incroyable, que l'on rencontre beaucoup sur l'ensemble du littoral de Charente-Maritime, mais aussi un petit peu plus dans l'intérieur d'ailleurs. C'est celui que j'ai sélectionné en premier, qui évoque irrémédiablement les pays chauds, il s'agit du Pittosporum taubira, ou Pittosporum de Chine. Il a une floraison qui est légèrement crème, avec des petites fleurs groupées par 10 ou 15 sur les tiges. C'est un arbuste persistant, donc il va garder ses feuilles toute l'année, qui peut, adulte, monter jusqu'à 4 mètres et prendre des dimensions importantes. Ses feuilles sont vernissées, coriaces, légèrement arrondies, et il supporte parfaitement les embruns, les terres argileuses, calcaires, le sable ne lui fait pas peur. Donc il a une grande adaptabilité. Sa floraison évoque immanquablement les agrumes et le jasmin en même temps, donc c'est quelque chose d'assez olfactif, et on le trouve pour notamment faire des haies, pour faire des haies en bord de mer, ça marche très très bien, c'est vraiment une très très belle plante, une très bonne plante, et cette floraison va durer à peu près là pendant un mois. Autre arbuste qui est un cousin un petit peu éloigné du Pittosporum, c'est l'oranger du Mexique, le Choisya ternata, qui n'a rien à voir avec un oranger. C'est un arbuste qui est originaire d'Amérique du Sud, où il pousse spontanément en sous-bois. Il est connu pour son feuillage qui est aromatique, qui ressemble un petit peu d'ailleurs au Pittosporum taubira. Il a un feuillage qui est un peu arrondi. Ses fleurs, elles, sont plus petites, elles sont blanches et éclosent en abondance en ce moment, au printemps, puis parfois en remontée de floraison, ce qu'on appelle une remontée de floraison, une faculté à refaire de la fleur sur la période du mois de septembre-octobre. Donc c'est un arbuste qui est très intéressant. Il rappelle aussi celui, le parfum des agrumes, c'est pour ça qu'on l'appelle oranger du Mexique. Il a vraiment cette faculté à avoir la floraison pratiquement aussi odorante que celle de la fleur d'un oranger. C'est un arbuste un petit peu capricieux qu'on a besoin d'avoir au jardin dans une situation à la abri. Il déteste les terres très argileuses, donc plutôt dans un terrain léger. On va l'amender, ce terrain, avec du terreau et du compost. Il supporte le soleil, mais se comportera beaucoup mieux en situation mi-ombragée. Voilà, c'est un arbuste que l'on peut aussi adopter en pot, puisqu'il y a quelques années sont apparues des nouvelles variantes avec des cultivars qui sont très compacts et qui fleurissent abondamment également, comme l'oranger du Mexique White Dazzler. Voilà pour ce qui concerne les arbustes à floraison excessivement olfactive.
Puisqu'on parle de parfums, il y a également un lot de 3 plantes parfumées à gagner. On choisira le gagnant ou la gagnante au cours de cette émission. On a une question de Marie-Claude avec nous. Bonjour Marie-Claude.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, quelle est votre question ce matin ?
Eh bien, écoutez, il y a 2 ans, nous avons planté un jasmin au pied d'un frêne qui est mort et on l'a complètement coupé, mais on a gardé le tronc. Oui. Et donc, mon mari a planté ce jasmin au pied. J'en ai pris grand soin lors de sa plantation. Ça s'est très bien passé. Cette année, il est magnifique. Il s'enroule très, très bien autour du tronc. Il est tout en fleurs, sauf que je suis désolée parce qu'il est très jaune. Il pousse très bien, mais il est très jaune.
Donc, je pense qu'il s'agit du jasmin officinal, le vrai jasmin, puisque vous dites qu'il est en fleurs actuellement.
Oui.
Je pense, parce que normalement, la floraison du jasmin est plutôt un peu décalée sur le mois de juin, règle générale.
Il n'est pas en fleurs, il est vraiment en bouton.
Ah, d'accord, voilà. Il est très en bouton. Donc,
oui.
Si vous avez un frêne, je pense que vous êtes sur une terre qui est plutôt argileuse ou un peu calcaire, voilà, c'est ça. Donc le jasmin, il n'aime pas forcément ces terres très très compactes avec l'excès d'eau que l'on peut avoir sur ces terrains argileux. Il a tendance à avoir une asphyxie racinaire qui va engendrer le jaunissement de ses feuilles. Il n'y a rien de dramatique à ça, Marie-Claude. Il faut juste lui faire un petit apport de terreau au pied pour alléger un petit peu la terre, gratter éventuellement s'il y a un petit peu d'herbe, et tout devrait rentrer dans l'ordre, mais il faut savoir quand même que le jasmin, sur son feuillage juvénile, a quand même tendance à avoir un feuillage assez clair, donc c'est pas forcément quelque chose d'irrémédiable. Il va reverdir en fonction de la photosynthèse qui va s'engendrer, et il va vraiment repartir sur une coloration beaucoup plus verte, en sachant que quand même c'est un jasmin officinal, donc le feuillage n'est pas d'un vert foncé, hein, c'est vraiment un vert plus tendre, un vert plus clair. Voilà, donc pas d'inquiétude, un peu de terreau pour alléger la terre si vraiment la terre est compacte au pied, et votre jasmin va de nouveau avoir ça.
J'ai peut-être fait une bêtise, parce que comme c'est en face vraiment de ma cuisine et que j'ai plaisir à le regarder, j'ai mis des gros galets autour, c'est peut-être ça?
Non, ça n'a pas une vraie incidence sur la coloration de son feuillage. D'accord. Moi je pense que c'est vraiment l'excès d'eau que l'on a eu là, depuis ces quelques semaines, qui a engendré ce jaunissement de feuilles, et surtout la jeune pousse qui s'est amorcée. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, me voilà rassuré, parce que de toute façon, je suis pas très inquiète, puisqu'il est très beau.
Et exactement. S'il est prolifique et qu'il pousse bien, c'est qu'il est quand même plutôt en bonne santé, en bonne forme.
Bon. Merci, Marie-Claude.
Merci. Je peux pas vous poser une autre question. Non.
Ça va être un peu compliqué. J'ai beaucoup d'attentes sur le standard aujourd'hui, Marie-Claude.
Merci Marie-Claude. Vous souhaite un très bon dimanche à l'écoute de France Bleu La Rochelle.
Côté expert. Jusqu'à 10h sur France Bleu La Rochelle.
Jusqu'à 10h, on parle de jardin, jardinage, plantes, arbustes, arbres, et notamment ceux qui sont très olfactifs. Vous avez des conseils à nous demander, des questions à poser à Richard. C'est le moment de nous appeler au 05 46 50 67 68. Et Richard, vous vouliez notamment mentionner les plantes grimpantes.
Oui, puisque Marie-Claude nous parlait de son jasmin. Donc, il existe quelques grimpantes à parfum étonnant, tout aussi intéressantes que le chèvrefeuille ou justement le jasmin officinal. Et notamment le jasmin étoilé, qui est actuellement la plante que l'on vend nous le plus aux pépinières de Cormes-Royal en plante grimpante pour orner ou une pergola ou une treille ou même par exemple un balcon. C'est une plante qui est très utilisée parce qu'elle a l'avantage de garder les feuilles, elle est persistante et surtout au moment de sa floraison, on est sur une floraison qui est suave et sucrée pendant les chaudes journées du début d'été. Elle va durer à peu près pendant un mois et demi cette floraison. Ce sont des petites fleurs en akène blanche à cœur jaune. C'est une guimpante très volubile, très accommodante. On peut l'utiliser aussi bien au soleil, en terrain sec, en terrain calcaire, à l'ombre. Ça marche très très bien. C'est vraiment une des plantes grimpantes les plus utilisées actuellement dans les jardins parce que elle a tous les atouts. En plus, son feuillage en fin de saison devient rouge avant l'hiver. Il suffit qu'il y ait un petit peu de froid et le feuillage devient rouge éclatant. Donc ça, c'est vraiment une très très belle grimpante. Autre grimpante qui commence à avoir aussi un petit succès dans les pépinières, c'est la Bignonia capreolata. Alors tout le monde connaît la bignonne, la fameuse campsis qui fait des grosses trompettes de fleurs rouges ou oranges suivant les variétés. Là, on est sur un cousin éloigné des bignonnes qui elles n'ont aucun parfum, mais c'est une plante qui a des grosses fleurs actuellement en forme de corolles tubulaires qui sont dans des teintes de jaune orangé marron et qui ont la particularité d'avoir une odeur de chocolat et de cacao et même un peu de café brûlé. Ça se mélange, c'est vraiment très étonnant. C'est quelque chose qui pousse très bien. C'est une plante caduque. La floraison est vraiment intéressante parce que dès que vous avez une chaude journée, vous avez ces effluves là qui embaument le jardin. Donc ça, c'est deux plantes que l'on utilise beaucoup pour justement avoir quelque chose de très olfactif dans notre jardin.
Voilà pour ces plantes grimpantes olfactives. Vous avez des questions à poser à Richard, notre jardinier? Ça se fait au 05 46 50 67 68 sur France Bleu à Rochelle. On est avec nous Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, Michel. On vous écoute ce matin.
Alors moi j'ai un souci tous les ans avec mes pivoines blanches qui sont très parfumées mais qui sont pleines de fourmis.
Alors si vous avez les fourmis, c'est les fourmis qui sont sur les plantes, qui montent sur les plantes ou ce sont les fourmis?
Oui, et puis quand je veux cueillir un bouquet, j'ai beau les secouer et tout, mais je ramène plein à la maison quoi. Donc c'est vraiment désagréable alors qu'elles sont magnifiques ces pivoines.
Oui, donc là c'est les pivoines herbacées que vous avez, ce ne sont pas des pivoines arbustives, hein, donc elles disparaissent. En fin de saison et réapparaissent généralement sur le mois de mars-avril pour avoir cette belle floraison.
Le bouton commence
c'est
à se fleurir.
Oui. D'accord. Est-ce que vous avez pu observer s'il y avait des petits parasites au niveau des tiges avec des pucerons, par exemple, Michel?
Il n'y a pas autre chose. Hein, tous les ans, c'est pareil, c'est les fourmis.
Parce que généralement, les fourmis, alors déjà, les fourmis, elles sont actives quand les températures dépassent les 12-14 degrés.
Donc elles ont
commencé leur activité et elles sont souvent à la recherche de nourriture. Donc ça veut dire qu'elles ont, si elles grimpent dans vos pivoines, c'est que elles ont un parasite qui les intéresse et qui va leur servir de garde-manger. Donc à surveiller quand même, regarder s'il n'y a pas des petits pucerons ou des cochenilles qui sont éventuellement sur les tiges. Après, pour se débarrasser des fourmis, c'est un peu compliqué. Alors il existe des pièges bien évidemment. Les méthodes un peu naturelles, ça peut être du jus de citron que l'on peut mettre au pied des les écorces d'agrumes et le jus de citron, ça éloigne un peu les fourmis. Donc ça, vous pouvez tenter. Ça peut être assez efficace pour éviter qu'elles colonisent l'ensemble de vos pieds de pivoine.
Ah oui, il y en a partout.
Voilà, Michel.
C'est vrai que cette année, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de fourmis. Parce que dès que je lève une pierre ou un caillou dans le jardin, il y a des fourmis dessous partout.
Vous devez avoir une fourmilière pas loin qui est installée pas loin. Donc voilà, essayez de vous en débarrasser de façon naturelle avec ces produits que l'on peut utiliser au jardin sans abîmer la nature.
Ok, d'accord. Ben, je vous remercie.
Merci beaucoup, Michel, pour votre appel. Très bonne journée, très bon dimanche à l'écoute de France Bleu. On continue à parler de jardins et de plantes olfactives, d'arbustes, d'arbres également. Et on a avec nous Maddy. Bonjour Maddy.
Bonjour. bonjour à vous.
Alors, quelle est votre question pour Richard ce matin ?
Eh bien, moi, j'ai pas d'odeur sur mon albizia, mais il a une quinzaine d'années, et l'écorce éclate, surtout aux pieds.
Vous habitez sur le Puy de Boreau, c'est ça,
oui,
Maddy ?
Oui, donc ouais. C'est une terre calcaire. Je le nourris tous les ans.
Oui. Alors, justement... Justement, je pense que alors l'albizia c'est aussi un arbre qui a une odeur particulière quand il fleurit, mais ça va être un peu plus tard, hein, ça va être sur le mois de juin, juillet, août, avec ses fleurs en akène rose ou rouge suivant les variétés. L'albizia est un arbre frugal, il n'a pas besoin d'être engraissé, surtout vous me dites qu'il a 15 ans de plantation, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Non, on va arrêter complètement les apports d'engrais. Là, vous allez forcément engendrer une pousse qui va être importante et l'écorce peut effectivement fissurer, voire se craqueler si jamais c'est un arbre qui est trop nourri. Donc, arrêtez les apports d'engrais pour votre albizia. Il est affranchi. Il va maintenant se débrouiller tout seul. Surtout s'il a une belle croissance. Inutile de vouloir l'engraisser de façon régulière. Vous allez l'oublier dans les années qui viennent et vous verrez que ça va s'arrêter. L'écorce qui craque, c'est essentiellement dû à un excès d'engrais, à un excès d'azote.
D'accord.
Voilà, okay. Maddy.
Bon, bien, ben, merci beaucoup.
Et très bon dimanche.
Une petite question.
Allez, une toute dernière,
est-ce
oui.
Est-ce que le jasmin dont vous avez parlé tout à l'heure,
oui.
Quand il a fini sa floraison, on peut le tailler ?
Oui, bien sûr. Alors, toutes les plantes grimpantes après leur floraison, c'est à ce moment-là qu'on va, plutôt tailler, justement bah, pour rééquilibrer la plante. Généralement, après la floraison, c'est la pousse qui s'amorce, c'est-à-dire que sur le jasmin étoilé, on a vraiment un beau démarrage de végétation à ce moment-là. La floraison a lieu d'abord et ensuite, vous avez la pousse. Donc, si vous voulez limiter la plante, ou si vous voulez lui donner une forme particulière, c'est toujours après la floraison qu'on intervient, que l'on fait une taille.
D'accord,
merci bien. Beaucoup Maddy pour merci. Votre question. Et on a également une question pour vous Richard de Geneviève qui nous dit que sa bordure d'iris ben, fleurit de moins en moins. Elle les a dédoublées l'année dernière et elle nous demande si ben, c'est lié à ça ou peut-être sinon aux conditions climatiques ou à l'âge peut-être de ces
rhizomes. Alors elle a bien fait de les dédoubler puisque c'est vraiment quelque chose qui est important de faire au bout de 5-6 ans une fois qu'ils sont installés ces iris. Donc est-ce qu'elle les a mis avec un peu d'engrais quand elle les a replantés ? Est-ce qu'elle les a replantés au même endroit par rapport à l'ancienne plantation ? Faut savoir que les bulbes d'iris ont quand même vraiment tendance à épuiser le sol. C'est pour ça que, à un moment ou à un autre, vous avez des iris qui se creusent à l'intérieur et vous avez plus que la végétation qui se fait sur l'extérieur. Donc, à voir comment ça a été planté. Les conditions climatiques, non, parce que les conditions climatiques pour les iris, elles sont plutôt favorables. Même si ça manque un peu de chaleur, ils peuvent quand même fleurir. Donc, c'est pas qu'ils sont trop vieux, c'est que, voilà, je pense que si elle les a remis au même endroit que les précédents, il faut peut-être augmenter les engrais en apport d'azote et de potasse, ça va leur faire du bien. Un peu de compost aussi, ça peut leur faire du bien.
Voilà donc la question pour Geneviève qui nous avait laissé ce message à l'accueil de France Bleu La Rochelle. Un dernier mot sur cette thématique que
oui.
Vous aviez choisie sur
alors,
les
sûr,
plantes,
on
arbustes
va parler quand même des
et
arbres
olfactifs.
Ouais, c'est ça, les arbres. En ce moment, bah, si vous vous promenez un petit peu dans la nature, si vous vous promenez dans les forêts, il y a un des arbres qui a une odeur vraiment très caractéristique qui est le robinier, autrement dit l'acacia, qui a sa floraison qui rappelle l'odeur de vanille et de jasmin. On peut aussi consommer les fleurs en ce qui concerne l'acacia classique, l'acacia commun. Donc c'est vraiment une des plantes qui est facile dans un jardin parce qu'il s'adapte à pratiquement tous les sols. Il peut pousser aussi bien en terrain calcaire que sableux. Et on le trouve beaucoup maintenant replanté par l'ONF car c'est un arbre qui a la faculté de ne pas pourrir. Donc on le plante de plus en plus justement pour éviter l'importation d'essences exotiques pour faire des meubles, notamment des meubles d'extérieur. Autre essence moins connue mais à l'odeur exquise et tout aussi délicate qui est le févier d'Amérique, autrement dit le Gleditsia triacanto sunburst, qui est actuellement en pleine floraison. La floraison elle est insignifiante, on la voit presque pas, hein. C'est vraiment des toutes petites fleurs en forme de chenille. On dirait qu'on a mis des chenilles dans l'arbre et qui a aussi une odeur de miel quand il fleurit. C'est très agréable, c'est très doux, c'est un parfum très doux, très entêtant. C'est un arbre aussi avec une grande faculté d'adaptation, très résistant à la sécheresse une fois qu'il est installé. Il a la faculté aussi d'enrichir le sol parce qu'il fixe l'azote de l'air dans ses racines. Donc c'est vraiment un très, très joli petit arbre, idéal pour les petits jardins parce que dans sa taille adulte, on est sur une plante, on est sur un arbre qui va à peu près arriver sur une hauteur d'environ 5-6 mètres pour un étalement à peu près identique. En plus, il se prête bien à la taille, donc à adopter vraiment dans un jardin avec son joli feuillage doré et cette floraison à odeur de miel. Et enfin, un dernier arbre au parfum intense, qui est le tilleul de Henri, ou le tilleul Enraya, qui est un arbre caduc. C'est un tilleul avec un feuillage particulier, puisque les feuilles sont complètement découpées, avec une teinte cuivrée quand il pousse au printemps. Ça reste quelque chose d'assez original. Le tilleul de Henri est un arbre de croissance moyenne, avec un port étalé. Les branches sont légèrement retombantes, et il a cette odeur aussi particulière qui ressemble un petit peu à la fois au tilleul, mais aussi au jasmin, comme son grand frère qui est le tilleul argenté, qui lui aussi embaume le jardin et qui résiste très très bien à la sécheresse, que l'on plante aussi de plus en plus, mais qui devient plus grand. Donc le tilleul de Henri, c'est vraiment un des arbres que je sélectionne pour les petits espaces. Quand on a une bonne terre de jardin, ça marche plutôt très bien.
Richard Morander, pour terminer, des pépinières de Cormes-Royal. Il y avait donc un lot de 3 plantes à gagner.
Oui.
Qui l'a remporté?
Eh bien, aujourd'hui, c'est Elisabeth, notre auditrice, qui était je crois, du côté de la Vendée, qui a gagné donc un lot de 3 plantes olfactives que sont la lavande papillon, le Pittosporum tobira et le Choisy alternata qu'elle pourra venir retirer aux pépinières de Cormes-Royal à partir de mardi.
Merci beaucoup, Richard. Très bon dimanche.
Merci à vous. À bientôt.